Troisième partie, mass media, sexe et loisirs. Chapitre 1, la culture mass médiatique. Le néo ou la résurrection anachronique. Comme Marx le disait de Napoléon III, il arrive que les mêmes événements se produisent deux fois dans l'histoire. La première, ils ont une portée historique réelle. La seconde, ils n'en sont que l'évocation caricaturale, l'avatar grotesque, vivant d'une référence légendaire. Ainsi, la consommation culturelle peut être définie comme le temps et le lieu de la résurrection caricaturale, de l'évocation parodique de ce qui n'est déjà plus, de ce qui est consommé au sens premier du terme, achevé et résolu. Ces touristes qui partent en car dans le Grand Nord refaire les gestes de la ruée vers l'or, à qui on loue une batte et une tunique esquimaude pour faire couleur locale, ces gens-là consomment. Ils consomment sous forme rituelle ce qui fut événement historique, réactualisé de force comme légende. En histoire, ce processus s'appelle restauration. C'est un processus de dénégation de l'histoire et de résurrection fixiste des modèles antérieurs. La consommation est, elle aussi, tout entière imprégnée de cette substance anachronique. Esso vous offre, dans ses stations d'hiver, son feu de bois et son ensemble barbecue. Exemple caractéristique, ce sont les maîtres de l'essence, les liquidateurs historiques du feu de bois et de toute sa valeur symbolique, qui vous le reservent comme né au feu de bois Esso. Ce qui est consommé ici, c'est la jouissance simultanée, mixte, complice de l'automobile et des prestiges défunts de tout ce dont l'automobile signifie la mort. Et ceci, ressuscité par l'automobile. Il ne faut pas voir la simple nostalgie du passé. À travers ce niveau vécu, c'est la définition historique et structurelle de la consommation que d'exulter les signes sur la base d'une dénégation des choses et du réel. Nous avons vu que l'hypocrisie pathétique du fait divers, à travers la communication de masse, exalte de tous les signes de la catastrophe, mort, meurtre, viol, révolution, la quiétude de la vie quotidienne. Mais cette même redondance pathétique des signes est lisible partout. Exaltation des tout jeunes et des très vieux, émotion à la une pour les mariages de sang bleu, hymne masse médiatique au corps et à la sexualité. Partout, on assiste à la désagrégation historique de certaines structures qui fêtent en quelque sorte, sous le signe de la consommation, à la fois leur disparition réelle et leur résurrection caricaturale. La famille se dissout, on l'exalte. Les enfants ne sont plus des enfants, on sacralise l'enfance. Les vieux sont seuls, hors circuit, on s'attendrit collectivement sur la vieillesse. Et plus clairement encore, on magnifie le corps à mesure même que ses possibilités réelles s'atrophient et qu'il est de plus en plus traqué par le système de contrôle et de contraintes urbaines, professionnelles, bureaucratiques. Le recyclage culturel. Une des dimensions caractéristiques de notre société en matière de savoir professionnel, de qualification sociale, de trajectoire individuelle, c'est le recyclage. Elle implique pour chacun, s'il ne veut être relégué, distancé, disqualifié, la nécessité de remettre à jour ses connaissances, son savoir, en gros son bagage opérationnel, sur le marché du travail. Cette notion vise aujourd'hui particulièrement les cadres techniques d'entreprise et depuis peu les enseignants. Elle se veut donc scientifique et fondée sur le progrès continu des connaissances en sciences exactes, en techniques des ventes, en pédagogie, etc., auxquelles devraient normalement s'adapter tous les individus pour rester dans la foulée. En fait, le terme de recyclage peut inspirer quelques réflexions. Il évoque irrésistiblement le cycle de la mode. Là aussi, chacun se doit d'être au courant et de se recycler annuellement, mensuellement, saisonnièrement, dans ses vêtements, ses objets, sa voiture. S'il ne le fait, il n'est pas un vrai citoyen de la société de consommation. Or, il est évident qu'il ne s'agit pas dans ce cas d'un progrès continu. La mode est arbitraire, mouvante, cyclique et n'ajoute rien aux qualités intrinsèques de l'individu. Elle a pourtant un caractère de contrainte profonde et pour sanction la réussite ou la relégation sociale. On peut se demander si le recyclage des connaissances sous la couverture scientifique, ne cache pas ce même type de reconversion accélérée, obligée, arbitraire, que la mode et ne fait pas jouer au niveau du savoir et des personnes la même obsolescence dirigée que le cycle de production et de mode impose aux objets matériels. Dans ce cas, nous aurions affaire non pas à un processus rationnel d'accumulation scientifique, mais à un processus social non rationnel de consommation solidaire de tous les autres. Recyclage médical, le check-up. Recyclage corporel, musculaire, physiologique. Le président pour les hommes. Les régimes, les soins de beauté pour les femmes. Les vacances pour tout le monde. Mais on peut élargir, et il faut élargir, cette notion à des phénomènes bien plus vastes encore. La redécouverte même du corps est un recyclage corporel. La redécouverte de la nature, sous forme de campagne réduite à l'état d'échantillon, encadrée par l'immense tissu urbain, quadrillé et servi chambré sous la forme d'espaces verts, de réserves naturelles ou de décors aux résidences secondaires, cette redécouverte est en fait un recyclage de la nature. C'est-à-dire non plus du tout une présence originelle, spécifique, en opposition symbolique avec la culture, mais un modèle de simulation, un consommé de signes de nature remis en circulation, bref, une nature recyclée. Si nous n'en sommes pas encore là partout, telle est pourtant bien la tendance actuelle. Qu'on l'appelle aménagement, préservation des sites, environnement, il s'agit toujours de recycler une nature condamnée dans son existence propre. La nature comme l'événement, comme le savoir, est régie dans ce système par le principe d'actualité. Elle doit changer fonctionnellement comme la mode. Elle a valeur d'ambiance, donc soumise à un cycle de renouvellement. C'est le même principe qui envahit aujourd'hui le domaine professionnel, où les valeurs de science, de technique, de qualification et de compétence le cèdent au recyclage, c'est-à-dire aux contraintes de mobilité, de statut et de profil de carrière. Ce principe d'organisation régit aujourd'hui toute la culture de masse. Ce à quoi ont droit tous les acculturés, et à la limite pas même les cultivés n'y échappent ou n'y échapperont, ce n'est pas à la culture, c'est au recyclage culturel. C'est à être dans le coup, c'est à savoir ce qui se fait, c'est à remettre à jour, tous les mois ou tous les ans, sa panoplie culturelle. C'est à subir cette contrainte de brève amplitude, perpétuellement mouvante comme la mode, et qui est l'inverse absolu de la culture conçue comme, premièrement, patrimoine héréditaire d'œuvres, de pensées, de traditions, deuxièmement, dimension continue d'une réflexion théorique et critique, transcendance critique et fonction symbolique. Les deux sont également niés par la subculture cyclique, faite d'ingrédients et de signes culturels obsolescents, par l'actualité culturelle qui va de l'art cinétique aux encyclopédies hebdomadaires, culture recyclée. On voit que le problème de la consommation de la culture n'est pas lié au contenu culturel à proprement parler, ni au public culturel, l'éternel faux problème de la vulgarisation de l'art et de la culture, dont sont victimes à la fois les praticiens de la culture aristocratique et les champions de la culture de masse. Ce qui est décisif, ce n'est pas que quelques milliers seulement ou des millions participent de telle œuvre, c'est que cette œuvre, comme la voiture de l'année, comme la nature des espaces verts, soit condamnée à n'être qu'un signe éphémère parce que produite, délibérément ou non, dans une dimension qui est celle aujourd'hui universelle de la production, la dimension du cycle et du recyclage. La culture n'est plus produite pour durer. Elle se maintient bien sûr comme instance universelle, comme référence idéale, et ce d'autant plus qu'elle perd sa substance de sens, de même que la nature n'est jamais si exaltée que depuis qu'elle est partout détruite, mais dans sa réalité, de par son mode de production, elle est soumise à la même vocation d'actualité que les biens matériels. Et ceci, encore une fois, ne concerne pas la diffusion industrielle de la culture. Que Van Gogh soit exposé dans les grands magasins ou Kierkegaard vendu à 200 000 exemplaires n'a rien à voir dans l'affaire. Ce qui met en jeu le sens des œuvres, c'est que toutes les significations soient devenues cycliques, c'est-à-dire que leur soit imposé, à travers même le système de communication, un mode de succession, d'alternance, une modulation combinatoire qui est celle même de la longueur des jupes et des émissions de télévision. C'est ainsi qu'à partir de là, la culture, comme le pseudo-événement dans l'information, comme le pseudo-objet dans la publicité, peut être produite. Elle l'est virtuellement à partir du médium lui-même, à partir du code de référence. On rejoint ici la procédure logique des modèles de simulation ou celle qu'on peut voir à l'œuvre dans les gadgets qui ne sont que jeux sur les formes et sur la technologie. À la limite, il n'y a plus de différence entre la créativité culturelle, dans l'art cinétique, etc., et cette combinatoire ludique-technique. Pas de différence non plus entre les créations d'avant-garde et la culture de masse. Celle-ci combine plutôt les contenus idéologiques, folkloriques, sentimentaux, moraux, historiques, des thèmes stéréotypés et l'autre des formes, des modes d'expression. Mais l'une et l'autre jouent d'abord sur un code et sur un calcul d'amplitude et d'amortissement. Il est d'ailleurs curieux de voir comment, en littérature, le système des prix littéraires, couramment méprisé pour sa décrépitude académique, il est stupide en effet de couronner un livre par an au regard de l'universel, a retrouvé une survie étonnante en venant s'adapter au cycle fonctionnel de la culture moderne. Leur régularité, absurde en d'autres temps, redevient compatible avec le recyclage conjoncturel, avec l'actualité de la mode culturelle. Jadis, ils signalaient un livre à la postérité, et c'était cocasse. Aujourd'hui, ils signalent un livre à l'actualité, et c'est efficace. Ils ont trouvé là leur second souffle. Le tiers-lipo et le computer, ou la plus petite commune culture. La mécanique du tiers-lipo. En principe, c'est l'exploration par question de la définition du verbe « tirlipoté », équivalent du « machin » signifiant « flottant » auquel substituer par reconstitution sélective le signifiant spécifique. Donc, en principe, un apprentissage intellectuel. En fait, on s'aperçoit qu'à de rares exceptions près, les participants sont dans l'incapacité de poser de véritables questions. Questionner, explorer, analyser les gènes. Ils partent de la réponse. Tel verbe qu'ils ont dans la tête, pour en déduire la question qui est en fait la mise en forme interrogative de la définition du dictionnaire. Exemple, est-ce que tirlipoté, c'est mettre fin à quelque chose? Si le meneur du jeu dit « oui » dans un certain sens, ou même simplement « peut-être, à quoi pensez-vous ?», réponse automatique, finir ou achever. C'est la démarche même du bricoleur qui essaie une vis après l'autre pour voir si ça marche. Méthode exploratrice rudimentaire, d'ajustage par essai et erreur, sans investigation rationnelle. Le computer, même principe, pas d'apprentissage. Un mini-ordinateur vous pose des questions et pour chaque question, une tablature de 5 réponses. Vous sélectionnez la réponse juste. Le temps compte. Si vous répondez instantanément, vous obtenez le maximum de points, vous êtes champion. Ce n'est donc pas un temps de réflexion, c'est un temps de réaction. Ce ne sont pas des processus intellectuels que l'appareil met en jeu, ce sont les mécanismes réactionnels immédiats. Il ne faut pas peser les réponses proposées, ni délibérer. Il faut voir la réponse juste, l'enregistrer comme un stimulus, selon le schème optique-moteur de la cellule photoélectrique. Savoir, c'est voir, cf. Le radar Riesmannien, qui permet d'évoluer ainsi parmi les autres en gardant ou coupant le contact, en sélectionnant immédiatement les relations positives et négatives. Surtout pas de réflexion analytique, elle est pénalisée par le moindre total de points dû au temps perdu. Si ce n'est donc une fonction d'apprentissage, toujours avancée par les meneurs de jeu et les idéologues des masses médias, quelle est la fonction de ces jeux? Dans le tiers-lipo, il est clair que c'est la participation. Le contenu n'a aucune importance. Pour le participant, c'est la jouissance d'avoir tenu l'antenne 20 secondes, assez pour faire passer sa voix, mêler sa voix à celle du meneur de jeu, retenir celui-ci en engageant un bref dialogue avec lui, et à travers lui, prendre un contact magique avec cette multitude chaleureuse et anonyme qu'est le public. Il est clair que la plupart ne sont pas du tout déçus par l'échec de leur réponse. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. De la communion. Plutôt cette forme moderne, technique et aseptisée de la communion qu'est la communication, le contact. Ce qui distingue la société de consommation, ce n'est pas en effet l'absence déplorée de cérémonie. Le jeu radiophonique en est une au même titre que la messe ou le sacrifice en société primitive. Mais c'est que la communion cérémonielle n'y passe plus à travers le pain et le vin, qui seraient la chair et le sang, mais à travers les masses médias, qui sont non seulement le message, mais le dispositif d'émission, le réseau d'émission, la station d'émission, les postes récepteurs et bien entendu, les producteurs et le public. Autrement dit, la communion ne passe plus par un support symbolique, mais par un support technique. C'est en cela qu'elle est communication. Ce qui est partagé, alors, ce n'est plus une culture. Le corps vivant, la présence actuelle du groupe, tout ce qui faisait la fonction symbolique et métabolique de la cérémonie et de la fête, ce n'est même pas un savoir au sens propre du terme, c'est cet étrange corpus de signes et de références, de réminiscences scolaires et de signaux intellectuels de mode qu'on nomme culture de masse et qu'on pourrait appeler plus petite commune culture, au sens du plus petit commun dénominateur en arithmétique, au sens aussi du standard package, lequel définit la plus petite commune panoplie d'objets que se doit de posséder le consommateur moyen pour accéder au titre de citoyen de cette société de consommation. Ainsi, la plus petite commune culture définit la plus petite commune panoplie de réponses justes qu'est censé posséder l'individu moyen pour accéder au brevet de citoyenneté culturelle. La communication de masse exclut la culture et le savoir. Il n'est pas question que de véritables processus symboliques ou didactiques entrent en jeu, car ce serait compromettre la participation collective qui est le sens de cette cérémonie. Participation qui ne peut s'accomplir que par une liturgie, un code formel de signes soigneusement vidé de toute teneur de sens. On voit que le terme culture est lourd de malentendus. Ce consommé culturel, ce digeste répertoire de questions-réponses codées, cette plus petite culture commune est à la culture ce qu'est l'assurance vie à la vie. Elle est faite pour en conjurer les risques et, sur la base de la dénégation d'une culture vivante, exalter les signes ritualisés de la culturalisation. S'alimentant à un mécanisme de questions-réponses automatisées, cette plus petite culture commune a beaucoup d'affinités, par contre, avec la culture scolaire. Tous ces jeux ont d'ailleurs pour ressort l'archétype de l'examen. Et ceci n'est pas un accident. L'examen est la forme éminente de la promotion sociale. Chacun veut passer des examens, fût-ce sous une forme radiophonique bâtarde, parce que être examiné est aujourd'hui élément de prestige. Il y a donc un processus d'intégration sociale puissante dans la multiplication infinie de ces jeux. On peut imaginer à la limite une société entière intégrée à ces joutes masse-médiatiques, l'organisation sociale entière reposant sur leurs sanctions. Une société a déjà dans l'histoire connu un système total de sélection et d'organisation par les examens, la Chine mandarinale. Mais le système ne touchait qu'une frange cultivée. Ici, ce seraient les masses entières mobilisées par un incessant qui tout double, où chacun assurerait et mettrait en jeu son destin social. On ferait ainsi l'économie des rouages archaïques du contrôle social, le meilleur système d'intégration ayant toujours été celui de la compétition ritualisée. Nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, constatons la très forte aspiration à la situation d'examen. Double, puisque chacun peut y être examiné, mais s'y intègre aussi comme examinateur, comme juge, en tant que parcelle de l'instance collective appelée publique. Dédoublement de rêve, proprement fantasmatique, être à la fois l'un et l'autre, mais aussi opération tactique d'intégration par délégation de pouvoir. Ce qui définit la communication de masse, c'est donc la combinaison du support technique et de la plus petite culture commune, et non pas l'effectif de la masse participante. Le computer est lui aussi masse médium, même si le jeu semble s'y individualiser. Dans cette machine à sous où la dextérité intellectuelle s'illumine de spots et de signaux sonores, admirable synthèse entre le savoir et l'électroménager, c'est encore l'instance collective qui vous programme. Le médium computer n'est que matérialisation technique du médium collectif, de ce système de signaux plus petit commun culturel qui ordonne la participation de tous à chacun et de chacun au même. Encore une fois, il est inutile et absurde de confronter et d'opposer en valeur la culture savante et la culture masse-médiatisée. L'une a une syntaxe complexe, l'autre est une combinatoire d'éléments qui peut toujours se dissocier en termes de stimulus-réaction, de questions-réponses. Cette dernière trouve ainsi son illustration la plus vive dans le jeu radiophonique. Mais ce schème régit bien au-delà de ces spectacles rituels le comportement du consommateur dans chacun de ses actes, dans sa conduite généralisée, qui s'organise comme une succession de réponses à des stimuli variés. Goût, préférence, besoin, décision, en matière d'objets comme de relations, le consommateur est perpétuellement sollicité, questionné et sommé de répondre. L'achat dans ce contexte est assimilable au jeu radiophonique. Il est moins aujourd'hui démarche originale de l'individu en vue de la satisfaction concrète d'un besoin que d'abord réponse à une question. Réponse qui engage l'individu dans le rituel collectif de la consommation. C'est un jeu dans la mesure où chaque objet est toujours offert selon une gamme de variantes entre lesquelles l'individu est sommé de choisir. L'acte d'achat, c'est le choix, c'est la détermination d'une préférence, exactement comme entre les diverses réponses proposées par le computer. C'est en quoi l'acheteur joue, en répondant à une question qui n'est jamais celle directe portant sur l'utilité de l'objet, mais celle indirecte portant sur le jeu des variantes de l'objet. Ce jeu et le choix qui le sanctionne caractérisent l'acheteur-consommateur par opposition à l'usager traditionnel. Les plus petits communs multiples. La plus petite commune culture, des ondes radiophoniques ou des grands magazines de presse se double aujourd'hui d'une filiale artistique. Cette multiplication des œuvres d'art, dont la Bible elle-même, multipliée et livrée aux foules sous forme hebdomadaire, offrait le prototype miraculeux dans la célèbre multiplication des pains et des poissons au bord du lac de Tibériade. Dans la Jérusalem céleste de la culture et de l'art, un grand vent démocratique a soufflé. L'art contemporain. De Rauschenberg à Picasso, de Vasarely à Chagall et aux plus jeunes, fait son vernissage au magasin du printemps. Il est vrai, au dernier étage, et sans compromettre le rayon décoration du second étage, avec ses ports de mer et ses soleils couchants. L'œuvre d'art échappe à la solitude où on l'a pendant des siècles confinée, comme objet unique et moment privilégié. Les musées, c'est bien connu, étaient encore des sanctuaires. Mais désormais, la masse a pris le relais du possesseur solitaire ou de l'amateur éclairé. Et ce n'est pas seulement la reproduction industrielle qui fera les délices de la masse. C'est l'œuvre d'art à la fois unique et collective, le multiple. Ouvrez les guillemets. Initiative heureuse. Jack Putman vient d'éditer, sous l'égide des magasins Prise Unique, une collection d'estampes originales à un prix très abordable, 100 francs. Personne ne trouve plus anormal d'acquérir une lithographie ou une eau-forte en même temps qu'une paire de bas ou un fauteuil de jardin. La seconde, suite Prise Unique, vient d'être exposée à la galerie L'Œil. Elle est désormais en vente dans ses magasins. Ce n'est pas une promotion ni une révolution. La multiplication de l'image répond à la multiplication du public qui entraîne fatalement des lieux de rencontre avec cette image. La recherche expérimentale n'a plus comme aboutissement l'esclavage de la puissance et de l'argent. L'amateur bienfaiteur cède la place aux clients participants. Chaque estampe, numérotée et signée, est tirée à 300 exemplaires. Victoire de la société de consommation ? Peut-être. Mais quelle importance, puisque la qualité est sauve. Ceux qui, aujourd'hui, ne veulent pas comprendre l'art contemporain sont ceux qui le veulent bien. Fermez les guillemets. L'art spéculation, fondée sur la rareté du produit, terminé. Avec le multiple illimité, l'art pénètre dans l'époque industrielle. Il se trouve que ces multiples, étant cependant limités dans leur tirage, redeviennent aussitôt un peu partout l'objet d'un marché noir et d'une spéculation parallèle. Naïveté rusée des producteurs et des concepteurs. L'œuvre d'art dans la charcuterie, la toile abstraite à l'usine. Ne dites plus « l'art, qu'est-ce que c'est ?» Ne dites plus « l'art, c'est trop cher ?» Ne dites plus « l'art, ce n'est pas pour moi. » Lisez les muses. Il serait trop facile de dire que jamais une toile de Picasso dans une usine n'abolira la division du travail, et que jamais la multiplication des multiples, fût-elle réalisée, n'abolira la division sociale et la transcendance de la culture. L'illusion des idéologues du multiple, ne parlons pas des spéculateurs conscients ou subconscients qui, artistes et trafiquants, sont de loin les plus nombreux dans l'affaire, et plus généralement de la diffusion ou de la promotion culturelle, est cependant instructive. Leur noble effort pour démocratiser la culture, ou, chez les designers, créer de beaux objets pour le plus grand nombre, se heurte visiblement à un échec, ou, ce qui revient au même, à une telle réussite commerciale qu'elle en devient suspecte. Mais cette contradiction n'est qu'apparente. Elle subsiste parce que ces belles âmes s'obstinent à prendre la culture pour un universel, tout en voulant la répandre sous forme d'objets finis, qu'ils soient uniques ou multipliés par mille. Ils ne font là que rendre à la logique de la consommation, c'est-à-dire à la manipulation de signes, certains contenus ou certaines activités symboliques qui, jusque-là, n'y étaient pas soumis. Multiplier les œuvres n'implique en soi aucune vulgarisation ni perte de qualité. Ce qui a lieu, c'est que les œuvres ainsi multipliées deviennent effectivement, en tant qu'objets sériels, homogènes, à la paire de bas et au fauteuil de jardin, et prennent leur sens par rapport à ceci. Ils ne s'opposent plus en tant qu'œuvres et substances de sens. en tant que signification ouverte aux autres objets finis. Ils sont devenus eux-mêmes objets finis et rentrent dans la panoplie, la constellation d'accessoires par où se définit le standing socio-culturel du citoyen moyen. Ceci dans le meilleur des cas, où chacun y aurait réellement accès. Pour l'instant, tout en cessant d'être œuvre, ces pseudo-œuvres n'en restent pas moins des objets rares, économiquement ou psychologiquement inaccessibles à la plupart, et réalimentant, comme objets distinctifs, un marché parallèle un peu élargi de la culture. Il est peut-être plus intéressant, mais c'est le même problème, de voir ce qui est consommé dans les encyclopédies hebdomadaires. La Bible, les Muses, Alpha, le Million, dans ses éditions musicales et artistiques à grand tirage, grands peintres, grands musiciens. On sait que le public atteint est ici virtuellement très large. Ce sont toutes les couches moyennes scolarisées, ou dont les enfants sont scolarisés, au niveau secondaire ou technique, employés, petits et moyens cadres. Il faut ajouter à ces grandes publications récentes celles qui, de Science et Vie à Historia, etc., alimentent depuis longtemps la demande culturelle des classes promouvables. Que cherchent-elles dans cette fréquentation de la science, de l'histoire, de la musique, du savoir encyclopédique ? C'est-à-dire de disciplines instituées, légitimées, dont les contenus, à la différence de ceux que diffusent les masses médias, ont une valeur spécifique. Cherchent-elles un apprentissage, une formation culturelle réelle, ou un signe de promotion ? Cherchent-elles dans la culture un exercice, ou un bien d'appropriation, un savoir ou un statut ? Retrouvons-nous là un effet de panoplie dont nous avons vu qu'il désigne, comme signe parmi d'autres signes, l'objet de consommation ? Dans le cas de Science et Vie, nous nous référons ici à une enquête sur les lecteurs de ce magazine analysée par le Centre de Sociologie Européenne, la demande est ambiguë. Il y a aspiration camouflée, clandestine à la culture, cultivée, à travers l'accession à la culture technique. La lecture de Science et Vie est le résultat d'un compromis, aspiration à la culture privilégiée, mais avec contre-motivation défensive, sous forme de refus du privilège, c'est-à-dire en même temps aspiration à la classe supérieure et réaffirmation à sa position de classe. Plus précisément, cette lecture joue comme signe de ralliement. À quoi ? À la communauté abstraite, au collectif virtuel de tous ceux qu'anime la même exigence ambiguë, de tous ceux qui lisent eux aussi Science et Vie, ou les Muses, etc. Acte témoin d'ordre mythologique, le lecteur rêve d'un groupe dont il consomme in abstracto la présence à travers sa lecture. Relation irréelle, massive, qui est proprement l'effet de communication de masse. Complicité indifférenciée qui fait pourtant la substance profondément vécue de cette lecture. Valeur de reconnaissance, de ralliement, de participation mythique. On peut fort bien, d'ailleurs, détecter le même processus chez les lecteurs du Nouvel Observateur. Lire ce journal, c'est s'affilier aux lecteurs de ce journal. C'est jouer d'une activité culturelle comme emblème de classe. Bien sûr, la plupart des lecteurs, il faudrait dire des adeptes de ces publications à grand tirage, véhicules d'une culture subcultivée prétendront, et de bonne foi, s'attacher au contenu même et viser un savoir. Même cette valeur d'usage culturel, cette finalité objective est largement surdéterminée par la valeur d'échange sociologique. C'est à cette demande-là, indexée sur la concurrence statutaire de plus en plus vive, que répond l'immense matériel culturalisé de revues, d'encyclopédies, de collections de poche. Toute cette substance culturelle est consommée dans la mesure où son contenu n'alimente pas une pratique autonome, mais une rhétorique de la mobilité sociale, une demande qui vise un autre objet que la culture, ou plutôt ne vise celle-ci que comme élément codé de statut social. Il y a donc renversement, et le contenu proprement culturel n'apparaît plus ici que comme connotation, comme fonction seconde. Nous disons alors qu'il est consommé, de la même façon dont une machine à laver est objet de consommation, dès lors qu'elle n'est plus ustensile, mais élément de confort ou de prestige. Nous savons qu'alors, elle n'a plus de présence spécifique, et que bien d'autres objets peuvent lui être substitués, entre autres, précisément la culture. La culture devient objet de consommation dans la mesure où, glissant vers un autre discours, elle devient substituable et homogène, quoique hiérarchiquement supérieure, à d'autres objets. Et ceci ne vaut pas seulement pour Science et Vie, mais aussi bien pour la haute culture, la grande peinture, la musique classique, etc. Tout cela peut être vendu ensemble au drugstore ou dans les maisons de la presse. Mais ce n'est pas à proprement parler une question de lieu de vente, ni de volume du tirage, ni de niveau culturel du public. Si tout cela se vend, et donc se consomme ensemble, c'est que la culture est soumise à la même demande concurrentielle de signes que n'importe quelle autre catégorie d'objets, et qu'elle est produite en fonction de cette demande. À ce moment, elle tombe sous le même mode d'appropriation que les autres messages, objets, images qui composent l'ambiance de notre vie quotidienne, sous le mode de la curiosité, qui n'est pas forcément de la légèreté ou de la désinvolture, ce peut être une curiosité passionnée, en particulier dans les catégories en voie d'acculturation, mais qui suppose la succession, le cycle, la contrainte de renouvellement de mode, et substitue ainsi à la pratique exclusive de la culture comme système symbolique de sens, une pratique ludique de combinatoire de la culture comme système de signes. Beethoven, c'est formidable. À la limite, ce qui advient aux individus par cette culture, qui exclut aussi bien l'autodidacte, héros marginal de la culture traditionnelle, que l'homme cultivé, fleuron humanistique, embaumé et en voie de disparition, c'est du recyclage culturel, un recyclage esthétique qui est un des éléments de la personnalisation généralisée de l'individu, du faire-valoir culturel en société concurrentielle, et qui équivaut, toute proportion gardée, au faire-valoir de l'objet par le conditionnement. L'esthétique industrielle, le design, n'a d'autre but que de rendre aux objets industriels, durement touchés par la division du travail et marqués par leur fonction, cette homogénéité esthétique, cette unité formelle, ou ce côté ludique qui les relierait tous dans une espèce de fonction seconde d'environnement, d'ambiance. Ainsi font les designers culturels partout à l'œuvre aujourd'hui. Ils cherchent dans une société où les individus sont durement marqués par la division du travail et leurs tâches parcellaires, à les redessiner par la culture, à les intégrer sous une même enveloppe formelle, à faciliter les échanges sous le signe de la promotion culturelle, à mettre les gens dans l'ambiance, comme le design le fait pour les objets. Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que ce conditionnement, ce recyclage culturel, comme la beauté que donne aux objets l'esthétique industrielle, est incontestablement un argument de marché, comme dit Jacques Michel. Ouvrez les guillemets. C'est un fait aujourd'hui reconnu qu'un environnement agréable, dû à l'harmonie des formes et des couleurs, et bien sûr à la qualité des matériaux, a une influence bénéfique sur la productivité. Le Monde, 28 septembre 1969. Et c'est vrai, les hommes acculturés comme les objets désignés sont mieux intégrés socialement et professionnellement, mieux synchronisés, plus compatibles. Le fonctionnalisme de la relation humaine trouve dans la promotion culturelle un de ses terrains de prédilection. L'human design rejoint ici l'human engineering. Il faudrait avoir un terme qui soit la culture, ce que l'esthétique, au sens d'esthétique industrielle, de rationalisation fonctionnelle des formes, de jeu de signes, est à la beauté comme système symbolique. Nous n'avons pas de terme pour désigner cette substance fonctionnalisée de messages, de textes, d'images, de chefs-d'œuvre classiques ou de bandes dessinées, cette créativité et réceptivité codée qui ont remplacé l'inspiration et la sensibilité, ce travail collectif dirigé sur les significations et la communication, cette culturalité industrielle que viennent hanter pêle-mêle toutes les cultures de toutes les époques et que nous continuons, faute de mieux, d'appeler « culture », au prix de tous les malentendus et rêvant toujours, dans l'hyperfonctionnalisme de la culture consommée, à l'universel, au mythe qui saurait déchiffrer notre époque sans être déjà des superproductions mythologiques, à un art qui saurait déchiffrer la modernité sans s'y abolir. Le kitsch. Une des catégories majeures de l'objet moderne, avec le gadget, c'est le kitsch. L'objet kitsch, c'est communément toute cette population d'objets tocards, en stuc, en stock, d'accessoires, de bibeloteries folkloriques, de souvenirs, d'abat-jour ou de masques nègres, tout le musée de pacotille qui prolifère partout, avec une préférence pour les lieux de vacances et de loisirs. Le kitsch, c'est l'équivalent du cliché dans le discours. Et ceci doit nous faire comprendre que, tout comme pour le gadget, il s'agit là d'une catégorie difficilement définissable, mais qu'il ne faut pas confondre avec tel ou tel objet réel. Le kitsch peut être partout, dans le détail d'un objet comme dans le plan d'un grand ensemble, dans la fleur artificielle comme dans le roman photo. Il se définira de préférence comme pseudo-objet, c'est-à-dire comme simulation, copie, objet factice, stéréotype, comme pauvreté de signification réelle et surabondance de signes, de références allégoriques, de connotations disparates, comme exaltation du détail et saturation par les détails. Il y a d'ailleurs une relation étroite entre son organisation interne, surabondance inarticulée de signes, et son apparition sur le marché, prolifération d'objets disparates, amoncellement de séries. Le kitsch est une catégorie culturelle. Cette prolifération du kitsch, qui résulte de la multiplication industrielle, de la vulgarisation au niveau de l'objet, des signes distinctifs empruntés à tous les registres, le passé, le néo, l'exotique, le folklorique, le futuriste, et d'une surenchère désordonnée de signes tout faits à son fondement, comme la culture de masse et dans la réalité sociologique de la société de consommation. Celle-ci est une société mobile. De larges couches de la population procèdent le long de l'échelle sociale, accèdent à un statut supérieur et en même temps à la demande culturelle, qui n'est que la nécessité de manifester ce statut par des signes. À tous les niveaux de la société, les générations de parvenus veulent leur panoplie. Inutile donc d'accuser la vulgarité du public ou la tactique cynique des industriels qui veulent écouler leur pacotille. Encore que cet aspect soit important, il ne peut expliquer l'excroissance cancéreuse du parc des pseudo-objets. Il faut pour cela une demande, et cette demande est fonction de la mobilité sociale. Pas de kitsch dans une société sans mobilité sociale. Un parc limité d'objets de luxe suffit comme matériel distinctif à la caste privilégiée. Même la copie d'une œuvre d'art a encore valeur authentique à l'époque classique. Par contre, ce sont les grandes époques de mobilité sociale qui voient fleurir l'objet sous d'autres espèces. C'est avec la bourgeoisie ascendante de la Renaissance et du XVIIe siècle qu'émerge la préciosité et le baroque, qui, sans être des ancêtres directs du kitsch, témoignent déjà de l'éclatement et de l'excroissance du matériel distinctif dans une conjoncture de pression sociale et de mixité relative des classes supérieures. Mais c'est surtout avec Louis-Philippe, et en Allemagne entre 1870 et 1890, et dans toutes les sociétés occidentales depuis la fin du XIXe siècle et l'ère des grands magasins, que l'universelle bibelotterie est devenue une des manifestations majeures de l'objet et l'une des branches les plus fécondes du commerce. Cette ère-là est sans fin, puisque nos sociétés sont, cette fois, virtuellement en phase de mobilité continuelle. Le kitsch revalorise évidemment l'objet rare, précieux, unique, dont la production peut se faire industrielle elle aussi. Kitsch et objet authentique organisent ainsi à eux deux le monde de la consommation selon la logique d'un matériel distinctif aujourd'hui toujours mouvant et en expansion. Le kitsch a une valeur distinctive pauvre, mais cette valeur pauvre est liée à une rentabilité statistique maximale. Des classes entières s'en emparent. À cela s'oppose la qualité distinctive maximale des objets rares, liée à leur corpus limité. Il ne s'agit pas ici de beauté, il s'agit de distinctivité, et ceci est une fonction sociologique. Dans ce sens, tous les objets se classent selon leur disponibilité statistique, leur corpus plus ou moins limité, hiérarchiquement comme valeur. Cette fonction définit à chaque instant, pour tel état de la structure sociale, la possibilité pour telle catégorie sociale de se distinguer, de marquer son statut à travers telle catégorie d'objets ou de signes. L'accession de couches plus nombreuses à telle catégorie de signes oblige les classes supérieures à se distancer par d'autres signes en nombre restreint, soit de par leur origine, comme objets anciens authentiques, les tableaux, soit systématiquement limités, comme les éditions de luxe, les voitures hors série. Dans cette logique de la distinction, le kitsch n'innove jamais. Il se définit par sa valeur dérivée et pauvre. Cette valence faible est à son tour une des raisons de sa multiplication illimitée. Il se multiplie en extension alors que, en haut de l'échelle, les objets de classe se démultiplient en qualité et se renouvellent en se raréfiant. Cette fonction dérivée est là aussi liée à sa fonction esthétique ou anti-esthétique. À l'esthétique de la beauté et de l'originalité, le kitsch oppose son esthétique de la simulation. Partout il reproduit les objets plus petits ou plus grands que nature, il imite les matériaux, stucs, plastiques, etc. Il singe les formes ou les combine de façon disparate. Il répète la mode sans l'avoir vécu. En tout cela, il est homologue du gadget sur le plan technique. Le gadget est aussi une parodie technologique. Cette excroissance des fonctions inutiles, cette simulation continuelle de la fonction sans référent pratique réel. Cette esthétique de la simulation est profondément liée à la fonction socialement assignée au kitsch de traduire l'aspiration, l'anticipation sociale de classe, l'affiliation magique à une culture, aux formes, aux mœurs et aux signes de la classe supérieure, une esthétique de l'acculturation résultant en une subculture de l'objet. Le gadget et le ludique. La machine fut l'emblème de la société industrielle. Le gadget est l'emblème de la société post-industrielle. Il n'y a pas de définition rigoureuse du gadget. Mais si l'on admet de définir l'objet de consommation par la disparition relative de sa fonction objective, ustensile, au profit de sa fonction de signe, si l'on admet que l'objet de consommation se caractérise par une espèce d'inutilité fonctionnelle, ce qu'on consomme c'est précisément autre chose que l'utile, alors le gadget est bien la vérité de l'objet en société de consommation. Et à ce titre, tout peut devenir gadget, et tout l'est potentiellement. Ce qui définirait le gadget serait son inutilité potentielle et sa valeur combinatoire ludique. Gadgets sont donc aussi bien des badges, qui ont eu leur heure de gloire, que vénusiques, cylindres de métal poli parfaitement pur et inutile, sinon comme presse-papier, mais c'est la fonction à laquelle on voue tous les objets qui ne servent à rien. Ouvrez les guillemets. Amateur de beauté formelle et d'inutilité potentielle, le fabuleux vénusique est arrivé. Fermez les guillemets. Mais c'est aussi bien, car où va commencer l'inutilité objective, cette machine à écrire qui peut écrire sur 13 registres différents de caractères, selon que vous écrivez à votre banquier ou à votre notaire, à un client très important ou à un vieil ami. C'est le bijou sauvage pas cher, mais c'est aussi le bloc-notes IBM. Imaginez un petit appareil de 12 cm sur 15 cm, qui vous accompagne partout, en voyage, au bureau, en week-end. Vous le prenez d'une seule main, un coup de pouce, et vous lui chuchotez vos décisions, lui dictez vos directives, lui clamez vos victoires. Tout ce que vous dites est consigné dans sa mémoire. Que vous soyez à Rome, à Tokyo, à New York, votre secrétaire ne perdra pas une seule de vos syllabes. Fermez les guillemets. Rien de plus utile, rien de plus inutile. L'objet technique lui-même redevient gadget lorsque la technique est rendue à une pratique mentale de type magique ou à une pratique sociale de mode. Dans une voiture, les chromes, l'essuie-glace à deux vitesses, les glaces à commande électrique sont-ils gadgets? Oui et non. Ils ont quelque utilité au regard du prestige social. La connotation méprisante qui entre dans le terme vient tout simplement d'une perspective morale sur l'ustensilité des objets. Certains seraient censés servir à quelque chose, d'autres à rien. En fonction de quels critères? Ce n'est pas d'objet, même le plus marginal et décoratif, qui ne serve à quelque chose, ne serait-ce que parce qu'il ne sert à rien et redevient ainsi signe distinctif. Il n'est inversement pas d'objet qui ne serve de quelque façon à rien, c'est-à-dire à autre chose que sa destination. On n'en sortira pas, à moins de définir comme gadget ce qui est explicitement voué à des fonctions secondaires. Ainsi, non seulement les chromes, mais le poste de pilotage et la voiture entière sont gadgets, s'ils entrent dans une logique de la mode et du prestige ou dans une logique fétichiste. Et la systématique des objets les pousse aujourd'hui tous dans ce sens. L'univers du pseudo-environnement, du pseudo-objet, fait les délices de tous les créateurs fonctionnels. Témoin André Fey, technicien de l'art de vivre, qui crée des meubles Louis XVI où on découvre, derrière une sorte de style, la surface lisse et brillante d'une platine électrophone, ou les baffles d'une chaîne IFI. Ouvrez les guillemets. Ces objets bougent, tels les mobiles de Calder. Ils servent aussi bien à concevoir des objets usuels que de véritables œuvres d'art, dont la mise en mouvement coordonnée avec les projections chromophoniques cerneront de plus en plus près le spectacle total auquel il aspire. Meubles cybernétiques, bureaux à orientation et à géométrie variable, téléscripteurs calligraphiques, etc. Téléphone devenu enfin partie intégrante de l'homme et qui permet d'appeler New York ou de répondre à Honolulu du bord d'une piscine ou du fond d'un parc. Fermez les guillemets. Tout ceci, pour Fey, représente un asservissement de la technique à l'art de vivre. Et tout ceci évoque irrésistiblement le concours Lépine. entre le bureau vidéophone et le système de chauffage par l'eau froide imaginé par tel illustre inventeur, quelle différence ? Il y en a pourtant une, c'est que la bonne vieille trouvaille artisanale était une excroissance curieuse, la poésie un peu délirante d'une technique héroïque. Le gadget, lui, fait partie d'une logique systématique qui saisit toute la quotidienneté sur le mode spectaculaire et, par contre-coup, rend suspect d'artificialité, de trucage et d'inutilité tout l'environnement d'objets, et par extension, tout l'environnement de relations humaines et sociales. Dans son acception la plus large, le gadget essaie de dépasser cette crise généralisée de la finalité et de l'utilité sur le mode ludique. Mais il n'atteint pas et ne peut atteindre à la liberté symbolique du jouet pour enfants. Il est pauvre, c'est un effet de mode, c'est une sorte d'accélérateur artificiel des autres objets. Il est pris dans un circuit où l'utile et le symbolique se résolvent dans une sorte d'inutilité combinatoire, comme dans ces spectacles optiques totaux où la fête elle-même est gadget, c'est-à-dire pseudo-événement social, un jeu sans joueur. La résonance péjorative que le terme a prise aujourd'hui, tout ça c'est des gadgets, reflète sans doute, en même temps qu'un jugement moral, l'angoisse que provoque la disparition généralisée de la valeur d'usage et de la fonction symbolique. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'au new look combinatoire du gadget peut s'opposer, et ceci pour n'importe quel objet, fût-il lui-même gadget, l'exaltation de la nouveauté. La nouveauté est en quelque sorte la période sublime de l'objet et peut atteindre en certains cas l'intensité, sinon la qualité de l'émotion amoureuse. Ce stade est celui d'un discours symbolique où ne joue pas la mode ni la référence aux autres. C'est sur ce mode de relation intense que l'enfant vit ses objets et ses jouets. Et ce n'est pas le moindre charme plus tard d'une auto neuve, d'un livre neuf, d'un vêtement neuf ou d'un gadget que de nous replonger dans une enfance absolue. C'est là la logique inverse de celle de la consommation. Le gadget se définit en fait par la pratique qu'on en a, qui n'est ni de type utilitaire, ni de type symbolique, mais ludique. C'est le ludique qui régit de plus en plus nos rapports aux objets, aux personnes, à la culture, aux loisirs, au travail parfois, à la politique aussi bien. C'est le ludique qui devient la tonalité dominante de notre habitus quotidien, dans la mesure précisément où tout objet, bien, relation, service, il devient gadget. Le ludique correspond à un type d'investissement très particulier, non économique, objet inutile, non symbolique, l'objet gadget n'a pas d'âme. Il consiste en un jeu avec les combinaisons, en modulation combinatoire, jeu sur les variantes ou virtualité technique de l'objet, jeu avec les règles du jeu, dans l'innovation, jeu avec la vie et la mort avec combinaison ultime dans la destruction. Ici, nos gadgets domestiques rejoignent les machines à sous, les tire-lipos et les jeux radiophoniques culturels, le computer des drugstores, le tableau de bord de l'automobile et tout l'appareillage technique sérieux du téléphone à l'ordinateur qui constitue l'ambiance moderne du travail. Tout ce avec quoi nous jouons, plus ou moins consciemment, fascinés par le fonctionnement, la découverte enfantine et la manipulation, la curiosité vague ou passionnée pour le jeu des mécanismes, le jeu des couleurs, le jeu des variantes. C'est la même du jeu passion, mais généralisée et diffuse, et par la même moins prégnante, vidée de son pathétique et retombée à la curiosité, quelque chose entre l'indifférence et la fascination, et qui se définirait par opposition à la passion. La passion peut se comprendre comme relation concrète à une personne totale, ou à quelque objet pris comme personne. Elle implique un investissement total et prend une valeur symbolique intense, alors que la curiosité ludique n'est qu'intérêt, même s'il est violent, pour le jeu des éléments. Voyez le billard électrique. Le joueur s'absorbe dans le bruit, les secousses et les clignotements de la machine. Il joue avec l'électricité. En appuyant sur les boutons, il a conscience de déchaîner un flux et courant à travers un univers de fils multicolores, aussi compliqué qu'un système nerveux. Il y a dans son jeu un effet de participation magique à la science. Il faut observer pour s'en convaincre, dans un café, la foule recueillie qui entoure le réparateur dès qu'il ouvre la machine. Personne ne comprend ses connexions et ses réseaux, mais tout le monde accepte ce monde étrange comme une donnée première et indiscutable. Rien de commun avec le rapport du cavalier à son cheval, ou de l'ouvrier à son outil, ou de l'amateur à l'œuvre d'art. Ici, le rapport de l'homme à l'objet est proprement magique, c'est-à-dire fasciné et manipulatoire. Cette activité ludique peut prendre l'allure d'une passion, mais elle ne l'est jamais. Elle est consommation. Ici, manipulation abstraite de spots, de flippers et de chronaxies électriques. Ailleurs, manipulation abstraite de signes de prestige dans les variantes de mode. La consommation est investissement combinatoire. Elle est exclusive de la passion. Le pop, un art de la consommation ? La logique de la consommation, nous avons vu, se définit comme une manipulation de signes. Les valeurs symboliques de création, la relation symbolique d'intériorité en sont absentes. Elle est tout en extériorité. L'objet perd sa finalité objective, sa fonction, il devient le terme d'une combinatoire beaucoup plus vaste, d'ensemble d'objets où sa valeur est de relation. Par ailleurs, il perd son sens symbolique, son statut millénaire anthropomorphique étant à s'épuisant en un discours de connotation, elles aussi relatives les unes aux autres dans le cadre d'un système culturel totalitaire, c'est-à-dire pouvant intégrer toutes les significations d'où qu'elles viennent. Nous nous sommes fondés sur l'analyse des objets quotidiens. Mais il est un autre discours sur l'objet, celui de l'art. Une histoire de l'évolution du statut des objets et de leur représentation en art et littérature serait à elle seule révélatrice. Après avoir joué dans tout l'art traditionnel des figurants symboliques et décoratifs, les objets ont cessé, au XXe siècle, de s'indexer sur les valeurs morales, psychologiques. Ils ont cessé de vivre par procuration à l'ombre de l'homme et ont commencé de prendre une importance extraordinaire comme élément autonome d'une analyse de l'espace, cubisme, etc. Par là même, ils ont éclaté, jusque dans l'abstraction. Ayant fêté leur résurrection parodique dans Dada et le surréalisme, déstructurés et volatilisés par l'abstrait, les voilà apparemment réconciliés avec les images dans la nouvelle figuration et le pop art. C'est ici que se pose la question de leur statut contemporain. Elle nous est imposée d'ailleurs par cette soudaine montée des objets au zénith de la figuration artistique. En un mot, le pop art est-il la forme d'art contemporaine de cette logique des signes et de la consommation dont nous parlons, ou bien n'est-il qu'un effet de mode, et donc lui-même un pur objet de consommation? Les deux ne sont pas contradictoires. On peut admettre que le pop art transpose un monde objet tout en aboutissant lui-même, selon sa propre logique, en objet pur et simple. La publicité participe de la même ambiguïté. Formulons la question en d'autres termes. La logique de la consommation élimine le statut sublime traditionnel de la représentation artistique. En toute rigueur, il n'y a plus de privilège d'essence ou de signification de l'objet sur l'image. L'un n'est plus la vérité de l'autre. Ils coexistent en étendue et dans le même espace logique où ils jouent également comme signe, dans leur relation différentielle, réversible, combinatoire. Alors que tout l'art jusqu'au pop se fonde sur une vision du monde en profondeur, le pop, lui, se veut homogène à cet ordre immanent de signes, homogène à leur production industrielle et sérielle, et donc au caractère artificiel fabriqué de tout l'environnement, homogène à la saturation en étendue en même temps qu'à l'abstraction culturalisée de ce nouvel ordre des choses. Réussit-il à rendre cette sécularisation systématique des objets, à rendre ce nouvel environnement signalétique tout en extériorité, tel qu'il ne reste rien de la lumière intérieure qui fit les prestiges de toute la peinture antérieure? Est-il un art du non-sacré, c'est-à-dire un art de la manipulation pure? Est-il lui-même un art non-sacré, c'est-à-dire producteur d'objets et non-créateur? Certains diront, et les pop eux-mêmes, les choses sont bien plus simples. Ils font ça parce qu'ils en ont envie. Au fond, ils s'amusent bien. Ils regardent autour d'eux, ils peignent ce qu'ils voient. C'est du réalisme spontané, etc. Ceci est faux. Le pop signifie la fin de la perspective, la fin de l'évocation, la fin du témoignage, la fin du gestuel créateur et, ce qui n'est pas le moindre, la fin de la subversion du monde et de la malédiction de l'art. Il vise non seulement l'immanence du monde civilisé, mais son intégration totale à ce monde. Il y a là une ambition folle, celle d'abolir les fastes et les fondements de toute une culture, celle de la transcendance. Il y a peut-être aussi tout simplement une idéologie. Déblayons deux objections. C'est un art américain. Dans son matériel d'objets, y compris l'obsession des stars and strips. Dans sa pratique empirique pragmatique, optimiste, dans l'engouement incontestablement chauvin de certains mécènes et collectionneurs qui s'y sont reconnus, etc. Encore que cette objection soit tendancieuse, répondons objectivement. Si tout cela est l'américanité, les pop, selon leur propre logique, ne peuvent que l'assumer. Si les objets fabriqués parlent américain, c'est qu'ils n'ont d'autre vérité que cette mythologie qui les submerge, et la seule démarche rigoureuse est d'intégrer ce discours mythologique et de s'y intégrer soi-même. Si la société de consommation est enlisée dans sa propre mythologie, si elle est sans perspective critique sur elle-même, si c'est justement là sa définition, il ne peut y avoir d'art contemporain que compromis, complice, dans son existence même et sa pratique, de cette évidence opaque. C'est bien pourquoi les pop peignent les objets selon leur apparence réelle, puisque c'est ainsi, comme signe tout fait, qu'ils fonctionnent mythologiquement. C'est pour cela qu'ils peignent de préférence les sigles, les marques, les slogans que véhiculent ces objets et qu'à la limite, ils peuvent ne peindre que cela. Robert Indiana. Ce n'est ni par le jeu, ni par réalisme. C'est reconnaître l'évidence de la société de consommation, à savoir que la vérité des objets et des produits, c'est leur marque. Si c'est cela, l'américanité, alors l'américanité est la logique même de la culture contemporaine, et on ne saurait reprocher au pop de la mettre en évidence. Non plus qu'on ne saurait leur reprocher leur succès commercial, et de l'accepter sans honte, le pire serait d'être maudit et de se réinvestir ainsi d'une fonction sacrée. Il est logique pour un art qui ne contredit pas au monde des objets, mais en explore le système, de rentrer lui-même dans le système. C'est même la fin d'une hypocrisie et d'un illogisme radical. Par opposition à la peinture antérieure, depuis la fin du XIXe, que sa génialité et sa transcendance n'empêchaient pas d'être objets signés et commercialisés en fonction de la signature, les expressionnistes abstraits ont porté au plus haut point cette génialité triomphante et cet opportunisme honteux. Les pop réconcilient l'objet de la peinture et la peinture-objet. Cohérence ou paradoxe? À travers sa prédilection pour les objets, à travers cette figuration indéfinie d'objets marqués et de matières comestibles, comme à travers son succès commercial, le pop est le premier à explorer son propre statut d'art-objet signé et consommé. Pourtant, cette entreprise logique, qu'on ne peut qu'approuver jusque dans ses conséquences extrêmes, dût celle-ci contrevenir à notre morale esthétique traditionnelle, se double d'une idéologie où elle n'est pas loin de sombrer. L'idéologie de nature, du réveil et de l'authenticité qui évoque les meilleurs moments de la spontanéité bourgeoise. Ce radical empirisme revêt parfois une allure dangereusement initiatique. Hollenburg, je roulais un jour en ville avec Jimmy Dine. Par hasard, nous sommes passés dans Orchard Street, des deux côtés une enfilade de petits magasins. Je me souviens avoir eu une vision du magasin. Je vis en imagination un environnement total basé sur ce thème. Il me sembla avoir découvert un monde nouveau. Je me mis à circuler parmi les magasins, partout et de toutes sortes, comme s'ils étaient des musées. Les objets déployés dans les vitrines et sur les comptoirs m'apparaissaient comme de précieuses œuvres d'art. Fermez les guillemets. Rosenquist. Alors, soudain, il me sembla que les idées affluaient vers moi par la fenêtre. Tout ce que j'avais à faire était de les saisir au vol et de me mettre à peindre. Tout prenait spontanément sa place. L'idée, la composition, les images, les couleurs, tout se mettait de lui-même à travailler. Fermez les guillemets. On voit, sur le thème de l'inspiration, les pop ne le cédant rien aux générations antérieures. Or, ce thème sous-entend, depuis Werther, l'idéalité d'une nature à laquelle il suffit d'être fidèle pour être vrai. Il faut simplement la réveiller, la révéler. Nous lisons chez John Cage un assentiment à un ordre révélé. L'univers des images et des objets fabriqués transparaissant au fond comme une nature aboutit aux professions de foi mystico-réaliste. On est en pleine confusion et on se retrouve devant une espèce de béhaviorisme fait d'une juxtaposition de choses vues, quelque chose comme un impressionnisme de la société de consommation, doublé d'une vague mystique zen ou bouddhiste de dépouillement de l'ego et du super-ego pour retrouver le ça du monde environnant. Il y a aussi de l'américanité dans ce curieux mélange. Mais il y a surtout une équivoque et une inconséquence grave. Car en donnant à voir le monde environnant non pour ce qu'il est, c'est-à-dire d'abord un champ artificiel de signes manipulables, un artefact culturel total, où entre en jeu non la sensation ni la vision, mais la perception différentielle et le jeu tactique des significations, en le donnant à voir comme nature révélée, comme essence, le pop connote doublement, d'abord comme idéologie d'une société intégrée, société actuelle, nature, société idéale, mais nous avons vu que cette collusion fait partie de sa logique. D'autre part, il réinstaure tout le processus sacré de l'art, ce qui anéantit son objectif fondamental. Le pop veut être l'art du banal, c'est même pour cela qu'il s'appelle art populaire. Mais qu'est-ce que le banal, sinon une catégorie métaphysique, version moderne de la catégorie du sublime ? L'objet n'est banal que dans son usage, dans le moment où il sert. L'objet cesse d'être banal dès qu'il signifie. Or, nous avons vu que la vérité de l'objet contemporain n'est plus de servir à quelque chose, mais de signifier. Ce n'est plus d'être manipulé comme instrument, mais comme signe. Et c'est la réussite du pop, dans les meilleurs des cas, que de nous le montrer comme tel. Andy Warhol, dont la démarche est plus radicale, est aussi celui qui résume le mieux la contradiction théorique dans l'exercice de cette peinture et les difficultés pour celle-ci d'envisager son véritable objet. Il dit « La toile est un objet absolument quotidien, au même titre que cette chaise ou cette affiche. » Fermez les guillemets. Toujours cette volonté d'absorption, de résorption de l'art où l'on retrouve à la fois du pragmatisme américain, terrorisme de l'utile, chantage à l'intégration, et comme un écho de la mystique du sacrifice. Il ajoute « La réalité n'a pas besoin d'intermédiaire, il faut simplement l'isoler de l'environnement et la porter sur la toile. » Fermez les guillemets. Or toute la question est là, car la quotidienneté de cette chaise, ou de tel hamburger, aile de voiture ou visage de pin-up, c'est justement son contexte, et singulièrement le contexte sériel de toutes les chaises semblables ou légèrement dissemblables, etc. La quotidienneté, c'est la différence dans la répétition. En isolant la chaise sur la toile, je lui ôte toute quotidienneté, et du même coup, j'ôte à la toile tout caractère d'objet quotidien, par où elle devait, selon Warhol, ressembler absolument à la chaise. C'est un passé bien connu. Ni l'art ne peut s'absorber dans le quotidien, toile égale chaise, ni non plus saisir le quotidien en tant que tel, chaise isolée sur la toile égale chaise réelle. Immanence et transcendance sont également impossibles, ce sont les deux aspects d'un même rêve. Bref, il n'y a pas d'essence du quotidien, du banal, et donc pas d'art du quotidien. C'est une aporie mystique. Si Warhol et d'autres y croient, c'est qu'ils s'abusent sur le statut même de l'art et de l'acte artistique. Ce qui n'est pas rare du tout chez les artistes. Même nostalgie mystique d'ailleurs au niveau de l'acte, du geste producteur. Ouvrez les guillemets. « Je voudrais être une machine », dit Andy Warhol, qui peint en effet au pochoir, par sérigraphie, etc. Or, il n'est de pire orgueil pour l'art que de se poser comme machinal, ni de plus grande affectation pour celui qui jouit, qu'il le veuille ou non, du statut de créateur, que de se vouer à l'automatisme sériel. Pourtant, on ne saurait accuser Warhol ni le pop de mauvaise foi. Leur exigence logique se heurte à un statut sociologique et culturel de l'art auquel ils ne peuvent rien. C'est cette impuissance que traduit leur idéologie. Quand eux essayent de désacraliser leur pratique, la société les sacralise d'autant plus. Et on aboutit à ceci que leur tentative, la plus radicale qui soit, de sécularisation de l'art, dans ses thèmes et dans sa pratique, débouche sur une exaltation et une évidence jamais vue de sacré dans l'art. Tout simplement, les pop oublient que pour que le tableau cesse d'être un super signe sacré, objet unique, signature, objet d'un trafic noble et magique, il ne suffit pas du contenu ou des intentions de l'auteur. Ce sont les structures de la production de la culture qui en décident. À la limite, seule la rationalisation du marché de la peinture, comme de n'importe quel autre industriel, pourrait la désacraliser et rendre le tableau aux objets quotidiens. Ce n'est peut-être ni pensable, ni possible, ni même souhaitable, qui sait. En tout cas, ceci est la condition limite. Arrivé là, ou bien on s'arrête de peindre, ou bien on continue au prix d'une régression dans la mythologie traditionnelle de la création artistique. Et par cette faille, on récupère les valeurs picturales classiques, facture expressionniste chez Hollenborg, fauve et matissienne chez Wesselmann, etc. Qu'avons-nous à faire de ces résonances légendaires? Qu'avons-nous à faire de ces effets qui font dire que c'est quand même bien là de la peinture? La logique du pop est ailleurs, non dans une computation esthétique ni dans une métaphysique de l'objet. On pourrait définir le pop comme un jeu, et une manipulation des différents niveaux de perception mentale, une espèce de cubisme mental qui chercherait à diffracter les objets non selon une analytique spatiale, mais selon les modalités de perceptions élaborées au cours des siècles par toute une culture à partir de son appareillage intellectuel et technique. Réalité objective, image-reflet, figuration dessinée, figuration technique, la photo, schématisation abstraite, énoncé discursif, etc. D'autre part, L'usage de l'alphabet phonétique et les techniques industrielles ont imposé des schèmes de division, de dédoublement, d'abstraction, de répétition. Les ethnographes rapportent l'ahurissement des primitifs lorsqu'ils découvrent plusieurs livres absolument semblables. Toute leur vision du monde en est bousculée. On peut voir dans ces divers modes les mille figures d'une rhétorique de la désignation, de la reconnaissance. Et c'est là où le pop entre jeu. Il travaille sur les différences entre ces différents niveaux ou modes et sur la perception de ces différences. Ainsi, la sérigraphie d'un lynchage n'est pas une évocation. Elle suppose ce lynchage transmué en faits divers, en signe journalistique par la vertu des communications de masse, signe repris à un autre niveau encore par la sérigraphie. La même photo répétée suppose la photo unique et, au-delà, l'être réel dont elle est le reflet. Cet être réel pourrait d'ailleurs figurer dans l'œuvre sans la faire éclater. Il ne serait qu'une combinaison de plus. De même qu'il n'y a pas d'ordre de réalité dans le pop, mais des niveaux de signification, il n'y a pas d'espace réel. Le seul espace est celui de la toile, celui de la juxtaposition des différents éléments signes et de leurs relations. Il n'y a pas non plus de temps réel. Le seul temps est celui de la lecture, celui de la perception différentielle de l'objet et de son image, de telle image et de la même répétée, etc. C'est le temps nécessaire à la correction mentale, à l'accommodation sur l'image, sur l'artefact dans sa relation à l'objet réel. Il ne s'agit pas d'une réminiscence, mais de la perception d'une différence locale, logique. Cette lecture ne sera pas non plus la recherche d'une articulation et d'une cohérence, mais un parcours en étendue, un constat de succession. On voit que l'activité qu'impose, encore une fois dans son ambition rigoureuse, le pop est loin de notre sentiment esthétique. Le pop est un art cool. Il n'exige ni l'extase esthétique, ni la participation affective ou symbolique. Mais une espèce de curiosité instrumentale, laquelle garde bien quelque chose d'une curiosité enfantine, d'un enchantement naïf de découverte, pourquoi pas. On peut voir le pop aussi comme des images d'Épinal ou un livre d'heures de la consommation, mais qui met surtout en jeu des réflexes intellectuels de décodage, de déchiffrement, etc., ceux dont nous venons de parler. Pour tout dire, le pop art n'est pas un art populaire, car l'éthos culturel populaire, si tant est qu'il existe, repose précisément sur un réalisme sans ambiguïté, sur la narration linéaire et non sur la répétition ou la diffraction de niveau, sur l'allégorie et le décoratif. Ce n'est pas le pop art, puisque ces deux catégories renvoient à autre chose d'essentiel, et sur la participation émotive liée à la péripétie morale. C'est à un niveau vraiment rudimentaire que le pop art peut être pris pour un art figuratif, une imagerie colorée, une chronique naïve de la société de consommation, etc. Il est vrai que les pop artistes se sont plus aussi à le prétendre. Leur candeur est immense, leur ambiguïté aussi. Quant à leur humour, ou à celui qu'on leur prête, nous sommes là encore à des confins mouvants. Il serait instructif, à ce titre, d'enregistrer les réactions des spectateurs. Chez beaucoup, les œuvres provoquent un rire, ou au moins la velléité d'un rire, morale et obscène. Ces toiles sont toutes obscènes au regard classique. Puis un sourire de dérision, dont on ne sait s'il juge les objets peints ou la peinture elle-même. Sourire qui se fait volontiers complice. Ça n'est pas très sérieux, mais nous allons pas nous scandaliser et au fond peut-être que... Fermez les guillemets. Le tout plus ou moins crispé dans la désolation honteuse de ne savoir par où le prendre. Ceci dit, le pop est à la fois plein d'humour et sans humour. En toute logique, il n'a rien à voir avec l'humour subversif, agressif, avec le télescopage d'objets surréalistes. Il ne s'agit justement plus de court-circuiter les objets dans leurs fonctions, mais de les juxtaposer pour en analyser les relations. Cette démarche n'est pas terroriste. Elle comporte tout au plus des effets qui tiennent plutôt du dépaysement culturel. En fait, il s'agit d'autre chose. N'oublions pas, en nous reportant au système décrit, qu'un certain sourire fait partie des signes obligés de la consommation. Il ne constitue plus un humour, une distance critique, mais seulement le rappel de cette valeur critique transcendante, aujourd'hui matérialisée dans le clin d'œil. Cette fausse distance est partout présente, dans les films d'espionnage, chez Godard, dans la publicité moderne, qu'il utilise continuellement comme allusion culturelle, etc. À la limite, dans ce sourire cool, on ne peut plus distinguer le sourire de l'humour de celui de la complicité commerciale. C'est aussi ce qui se passe dans le pop, et son sourire résume au fond toute son ambiguïté. Ce n'est pas celui de la distance critique, c'est le sourire de la collusion. L'orchestration des messages. Télévision, radio, presse, publicité, C'est un discontinuum de signes et de messages où tous les ordres s'équivalent. Séquence radiophonique prise au hasard. Une publicité pour le rasoir Remington. Un résumé de l'agitation sociale des 15 derniers jours. Une publicité pour les pneus Dunlop SP Sport. Un débat sur la peine de mort. Une publicité pour les montres LIP. Un reportage sur la guerre au Biafra. Et une publicité pour la lessive Cryo au tournesol. Dans cette litanie où alternent l'histoire du monde et la figuration d'objets, l'ensemble constituant une espèce de poème à la Prévert, avec pages noires et pages roses alternées, celles-ci publicitaires évidemment. Le temps fort est apparemment celui de l'information. Mais c'est aussi, paradoxalement, celui de la neutralité, de l'impersonnalité. Le discours sur le monde ne veut pas concerner. Cette blancheur tonale contraste avec la forte valorisation du discours sur l'objet, enjouement, exaltation, vibrato, tout le pathétique du réel, de la péripétie, de la persuasion est transféré sur l'objet et son discours. Le dosage soigneux du discours d'information et du discours de consommation, au profit émotionnel exclusif de ce dernier, tend à assigner à la publicité une fonction de toile de fond, de réseau de signes litaniques, donc sécurisants, d'où viennent s'inscrire par intermède les vicissitudes du monde. Celle-ci, neutralisée par le découpage, tombe alors elle-même sous le coup de la consommation simultanée. Le journal parlé n'est pas le pot pourri qu'il semble. Son alternance systématique impose un schème unique de réception qui est un schème de consommation. Non plus tellement parce que la valorisation tonale publicitaire suggère qu'au fond, l'histoire du monde est indifférente et que seuls valent d'être investis les objets de consommation. Ceci est secondaire. L'efficace réelle est plus subtile, c'est d'imposer par la succession systématique des messages l'équivalence de l'histoire et du fait divers, de l'événement et du spectacle, de l'information et de la publicité au niveau du signe. C'est là qu'est le véritable effet de la consommation, et non pas dans le discours publicitaire direct. C'est dans le découpage grâce aux supports techniques, aux médias techniques de la télévision et de la radio, de l'événement et du monde en messages discontinus, successifs, non contradictoires, signes juxtaposables et combinables à d'autres signes dans la dimension abstraite de l'émission. Ce que nous consommons alors, ce n'est pas tel spectacle ou telle image en soi. C'est la virtualité de la succession de tous les spectacles possibles et la certitude que la loi de succession et le découpage des programmes fera que rien ne risque d'y émerger autrement que comme spectacle et signe parmi d'autres. Medium is message. Ici, dans ce sens au moins, il faut admettre comme un trait fondamental dans l'analyse de la consommation la formule de McLuhan. Le médium, c'est le message. Cela signifie que le véritable message que délivrent les médias télévisés et radiophoniques, celui qui est décodé et consommé inconsciemment et profondément, ce n'est pas le contenu manifeste des sons et des images, c'est le schème contraignant, lié à l'essence technique même de ces médias, de désarticulation du réel en signes successifs et équivalents. C'est la transition normale, programmée, miraculeuse du Vietnam au music hall, sur la base d'une abstraction totale de l'un comme de l'autre. Et il y a comme une loi d'inertie technologique qui fait que plus on se rapproche du document vérité, du en direct avec, plus on traque le réel avec la couleur, le relief, etc., plus se creuse de perfectionnement en perfectionnement technique l'absence réelle au monde, plus s'impose une vérité de la télévision ou de la radio qui est que chaque message a d'abord une fonction de renvoyer à un autre message. Le Vietnam à la publicité, celle-ci au journal parlé, etc. Leur juxtaposition systématique étant le mode discursif du médium, son message, son sens. Mais en se parlant ainsi lui-même, il faut bien voir qu'il impose tout un système de découpage et d'interprétation du monde. Ce procès technologique des communications de masse délivre une certaine sorte de message très impératif. Message de consommation du message, de découpage et de spectacularisation, de méconnaissance du monde et de mise en valeur de l'information comme marchandise, d'exaltation du contenu en tant que signe. Bref, une fonction de conditionnement, au sens publicitaire du terme, en ce sens, la publicité est un médium de masse par excellence, dont les schèmes imprègnent tous les autres médias, et de méconnaissance. Ceci est vrai de tous les médias, et même du médium livre, la littératie, dont McLuhan fait une des articulations majeures de sa théorie. Il entend que l'apparition du livre imprimé a été un tournant capital de notre civilisation, non pas tant par les contenus qu'il a véhiculés de génération en génération, idéologiques, informationnels, scientifiques, etc., que par la contrainte fondamentale de systématisation qu'il exerce à travers son essence technique. Il entend que le livre est d'abord un modèle technique, et que l'ordre de la communication y règne, le découpage visualisé, lettres, mots, pages, etc., est un modèle plus prégnant, plus déterminant à long terme que n'importe quel symbole, idée ou fantasme qui en fait le discours manifeste. Ouvrez les guillemets. Les effets de la technologie ne se font pas voir au niveau des opinions et des concepts, mais altèrent les rapports sensibles et les modèles de perception continuellement et inconsciemment. Fermez les guillemets. Ceci est évident. Le contenu nous cache la plupart du temps la fonction réelle du médium. Il se donne pour message, alors que le message réel, en regard duquel le discours manifeste n'est peut-être que connotation, c'est le changement structurel, d'échelle, de modèle, d'habitude, opéré en profondeur sur les relations humaines. Grossièrement, le message du chemin de fer, ce n'est pas le charbon ou le voyageur qu'il transporte, c'est une vision du monde, un nouveau statut des agglomérations, etc. Le message de la télévision, ce ne sont pas les images qu'elle transmet, ce sont les modes nouveaux de relations et de perceptions qu'elle impose, le changement des structures traditionnelles de la famille et du groupe. Plus loin encore, dans le cas de la télévision et des masses médias modernes, ce qui est reçu, assimilé, consommé, c'est moins tel spectacle que la virtualité de tous les spectacles. La vérité des médias de masse est donc celle-ci. Ils ont pour fonction de neutraliser le caractère vécu, unique, événementiel du monde, pour substituer un univers multiple de médias homogènes les uns aux autres en tant que tels, se signifiant l'un l'autre et renvoyant les uns aux autres. À la limite, ils deviennent le contenu réciproque les uns des autres, et c'est là le message totalitaire d'une société de consommation. Ce que véhicule le médium télévision, c'est, à travers son organisation technique, l'idée, l'idéologie, d'un monde visualisable à merci, découpable à merci et lisible en images. Elle véhicule l'idéologie de la toute-puissance d'un système de lecture sur un monde devenu système de signes. Les images de la télévision se veulent métalangage d'un monde absent. De même que le moindre objet technique, le moindre gadget est promesse d'une assomption technique universelle, ainsi les images-signes sont présomption d'une imagination exhaustive du monde, d'une assomption totale du mode réel à l'image qui en serait comme la mémoire, la cellule de lecture universelle. Derrière la consommation d'images se profile l'impérialisme d'un système de lecture, de plus en plus ne tendra à exister que ce qui peut être lu, ce qui doit être lu, le légendaire, et il ne sera plus question alors de la vérité du monde ou de son histoire, mais seulement de la cohérence interne du système de lecture. C'est ainsi qu'à un monde confus, conflictuel, contradictoire, chaque médium impose sa propre logique plus abstraite, plus cohérente, s'impose, lui, médium comme message, selon l'expression de McLuhan. C'est la subsistance du monde morcelé, filtré, réinterprété selon ce mode à la fois technique et légendaire que nous consommons. Toute la matière du monde, toute la culture traitée industriellement en produits finis, en matériel de signe, d'où toute valeur événementielle, culturelle ou politique, s'est évanouie. Si l'on considère le signe comme l'articulation d'un signifiant et d'un signifié, on peut définir deux types de confusion. Chez l'enfant, chez le primitif, le signifiant peut s'effacer au profit du signifié. C'est l'enfant qui prend sa propre image pour un être vivant, ou les téléspectateurs africains qui se demandent où est passé l'homme qui vient de disparaître de l'écran. Inversement, dans l'image centrée sur elle-même, ou dans le message centré sur le code, le signifiant devient son propre signifié. Il y a confusion circulaire des deux au profit du signifiant, abolition du signifié et tautologie du signifiant. C'est là ce qui définit la consommation, l'effet de consommation systématique au niveau des masses médias. Au lieu d'aller au monde par la médiation de l'image, c'est l'image qui fait retour sur elle-même par le détour du monde. C'est le signifiant qui se désigne lui-même derrière l'alibi du signifié. On passe du message centré sur le signifié, message transitif, à un message centré sur le signifiant. Dans le cas de la télévision par exemple, des événements signifiés par l'image à la consommation de l'image en tant que telle, c'est-à-dire précisément en tant que différente de ces événements, en tant que substance spectaculaire, culinaire, dirait Brecht, s'épuisant dans la durée même de son absorption et ne renvoyant jamais au-delà. Différente aussi dans le sens où elle ne donne ni à voir ni à comprendre les événements dans leur spécificité, historique, sociale, culturelle, mais les livre tous indistinctement, réinterprétés selon le même code qui est tout à la fois une structure idéologique et une structure technique, c'est-à-dire, dans le cas de la télévision, le code idéologique de la culture de masse, système de valeurs morales, sociales et politiques, et le mode de découpage, d'articulation du médium lui-même qui impose un certain type de discursivité, lequel neutralise le contenu multiple et mouvant des messages et lui substitue ses propres contraintes impératives de sens. Cette discursivité profonde du médium est, au contraire du discours manifeste des images, décodée inconsciemment par le spectateur. Le médium publicitaire. En ce sens, la publicité est peut-être le mass-médium le plus remarquable de notre époque. De même que parlant de tel objet, elle les glorifie virtuellement tous. De même qu'à travers tel objet et telle marque, elle parle en fait de la totalité des objets et d'un univers totalisé par les objets et les marques. De même, elle vise à travers chacun des consommateurs tous les autres, et chacun à travers tous les autres, simulant ainsi une totalité consommatrice, retribalisant les consommateurs au sens McLuhanesque du terme, c'est-à-dire à travers une complicité, une collusion immanente, immédiate au niveau du message, mais surtout au niveau du médium lui-même et du code. Chaque image, chaque annonce impose un consensus, celui de tous les individus virtuellement appelés à le déchiffrer, c'est-à-dire en décodant le message à adhérer automatiquement au code dans lequel elle a été codée. La fonction de communication de masse de la publicité ne lui vient donc pas de ses contenus, de ses modes de diffusion, de ses objectifs manifestes, économiques et psychologiques. Elle ne lui vient ni de son volume, ni de son public réel, encore que tout ceci ait son importance et serve de support, mais de sa logique même de médium autonomisé, c'est-à-dire ne renvoyant pas à des objets réels, à un monde réel, à un référentiel, mais d'un signe à l'autre, d'un objet à l'autre, d'un consommateur à l'autre. De la même façon, le livre devient un moyen de communication de masse, il renvoie à celui qui le lit, à tous ceux qui le lisent. La lecture alors n'en est pas substance de sens, mais pur et simple signe de complicité culturelle. Ou si l'objet livre renvoie aux autres de la même collection, etc. On pourrait analyser comment le langage lui-même, système symbolique, redevient masse médium au niveau de la marque et du discours publicitaire. Partout, la communication de masse se définit par cette systématisation au niveau du médium technique et du code, par la production systématique des messages, non pas à partir du monde, mais à partir du médium lui-même. Pseudo-événement et néo-réalité. Nous entrons ici dans le monde du pseudo-événement, de la pseudo-histoire, de la pseudo-culture, dont a parlé Burstein dans son livre « L'image ». C'est-à-dire d'événements, d'histoires, de cultures, d'idées produites non à partir d'une expérience mouvante, contradictoire, réelle, mais produites comme artefacts à partir des éléments du code et de la manipulation technique du médium. C'est cela et rien d'autre qui définit toute signification quelle qu'elle soit comme consommable. C'est cette généralisation de la substitution du code au référentiel qui définit la consommation mass-médiatique. L'événement brut est échange. Ce n'est pas matériel d'échange. Il ne devient consommable que filtré, morcelé, réélaboré par toute une chaîne industrielle de production, les masses médias, en produits finis, en matériel de signes finis et combinés, analogues aux objets finis de production industrielle. C'est la même opération que réalise le maquillage sur le visage, substitution systématique aux traits réels mais disparates d'un réseau de messages abstraits mais cohérents à partir d'éléments techniques et d'un code de signification imposé, le code de la beauté. Il faut se garder d'interpréter cette gigantesque entreprise de production d'artefacts, de make-up, de pseudo-objets, de pseudo-événements qui envahit notre existence quotidienne comme dénaturation ou falsification d'un contenu authentique. Par tout ce qui vient d'être dit, nous voyons que c'est bien au-delà de la réinterprétation tendancieuse du contenu que se situe le détournement du sens. La dépolitisation de la politique, la déculturation de la culture, la désexualisation du corps dans la consommation masse médiatisée. C'est dans la forme que tout a changé. Il y a partout substitution, en lieu et place du réel, d'un néo-réel tout entier produit à partir de la combinaison des éléments de code. C'est, sur toute l'étendue de la vie quotidienne, un immense processus de simulation qui a lieu, à l'image des modèles de simulation sur lesquels travaillent les sciences opérationnelles et cybernétiques. On fabrique un modèle en combinant des traits ou des éléments du réel, on leur fait jouer un événement, une structure ou une situation à venir, et on en tire les conclusions tactiques à partir desquelles on opère sur la réalité. Ce peut être un instrument d'analyse dans une procédure scientifique maîtrisée. Dans la communication de masse, cette procédure prend force de réalité. Celle-ci est abolie, volatilisée, au profit de cette néo-réalité du modèle matérialisé par le médium lui-même. Mais encore une fois, méfions-nous du langage qui parle automatiquement de faux, de pseudo, d'artificiel. Et revenons avec Burstein à la publicité pour essayer de saisir cette nouvelle logique qui est aussi une nouvelle pratique et une nouvelle mentalité. Au-delà du vrai et du faux. La publicité est un des points stratégiques de ce processus. C'est le règne du pseudo-événement par excellence. Elle fait de l'objet un événement. En fait, elle le construit comme tel sur la base de l'élimination de ses caractéristiques objectives. Elle le construit comme modèle, comme fait divers spectaculaire. La publicité moderne vit le jour lorsqu'une réclame ne fut plus une annonce spontanée, mais devint une nouvelle fabriquée. C'est par là que la publicité devient homogène aux nouvelles elles-mêmes soumises au même travail mythique. Publicité et nouvelles constituent ainsi une même substance visuelle, écrite, phonique et mystique dont la succession et l'alternance au niveau de tous les médias nous paraît naturelle. Elle suscite la même curiosité et la même absorption spectaculaire ludique. Journalistes et publicitaires sont des opérateurs mythiques. Ils mettent en scène, affabulent l'objet ou l'événement. Ils le livrent réinterprété, à la limite, ils le construisent délibérément. Il faut donc, si l'on veut en juger objectivement, leur appliquer les catégories du mythe. Celui-ci n'est ni vrai ni faux, et la question n'est pas d'y croire ou de ne pas y croire. D'où les faux problèmes sans cesse débattus. Premièrement, les publicitaires croient-ils à ce qu'ils font ? Ils seraient à moitié pardonnés. Deuxièmement, les consommateurs, au fond, ne croient-ils pas à la publicité ? Ils seraient à moitié sauvés. Burstein émet ainsi l'idée qu'il faut disculper les publicitaires. La persuasion et la mystification venant bien moins du manque de scrupules de ceux-ci que de notre plaisir à être trompés. Elles procèdent moins de leur désir de séduire que de notre désir d'être séduit. Et il prend l'exemple de Barnum, dont le génie fut de découvrir non pas combien il est facile d'abuser le public, mais plutôt combien le public aime être trompé. Hypothèse séduisante, mais fausse. L'ensemble ne repose pas sur quelques perversités réciproques, manipulation cynique ou masochisme collectif tournant autour du vrai et du faux. Le vrai est que la publicité et les autres masses médias ne nous trompent pas. Elle est au-delà du vrai et du faux, comme la mode est au-delà du laid et du beau, comme l'objet moderne, dont sa fonction signe, est au-delà de l'utile et de l'inutile. Le problème de la véracité de la publicité est à poser ainsi. Si les publicitaires mentaient vraiment, il serait facile à démasquer. Mais ils ne le font pas. Et s'ils ne le font pas, ce n'est pas qu'ils soient trop intelligents pour cela, c'est que, ouvrez les guillemets, l'art publicitaire consiste surtout en l'invention d'exposés persuasifs qui ne soient ni vrais ni faux, Burstein. Pour la bonne raison qu'il n'y a plus d'original, ni de référentiel réel, et que, comme tous les mythes et paroles magiques, la publicité se fonde sur un autre type de vérification, celui de la parole qui se réalise par sa profération même. Ouvrez les guillemets. L'agent publicitaire à succès est le maître d'un art nouveau, l'art de rendre les choses vraies en affirmant qu'elles le sont. C'est un adepte de la technique des prophéties s'accomplissant elles-mêmes. Fermez les guillemets. La publicité est une parole prophétique dans la mesure où elle ne donne pas à comprendre ni à apprendre, mais à espérer. Ce qu'elle dit ne suppose pas de vérité antérieure, celle de la valeur d'usage de l'objet, mais une confirmation ultérieure par la réalité du signe prophétique qu'elle émet. Là est son mode d'efficacité. Elle fait de l'objet un pseudo-événement qui va devenir l'événement réel de la vie quotidienne à travers l'adhésion du consommateur à son discours. On voit que le vrai et le faux sont ici insaisissables, tout comme dans les sondages électoraux, où l'on ne sait plus si le vote réel ne fait qu'entériner les sondages, et alors il n'est plus un événement réel, il n'est plus que le succès dernier des sondages qui, de modèles de simulations indicielles, sont devenus agents déterminants de la réalité, ou si ce sont les sondages qui reflètent l'opinion publique. Il y a là une relation inextricable. Comme la nature imite l'art, ainsi la vie quotidienne finit par être la réplique du modèle. Le mode de la prophétie autoréalisée, c'est le mode tautologique. La réalité n'est plus que le modèle qui se parle à lui-même. Ainsi de la parole magique, ainsi des modèles de simulation, ainsi de la publicité qui, entre autres manières de discours, joue, et de préférence, sur le discours tautologique. Tout y est métaphore d'une seule et même chose, la marque. Les expressions « une bière meilleure » que quoi ? « Lucky Strike », »,« une cigarette torréfiée ». Bien sûr, elles le sont toutes. Ne renvoie pas une évidence tournoyante. Quand Hertz, numéro 1 mondial de la location de voitures, dit en conclusion d'une longue annonce « Soyons logiques, si vous ne trouviez pas chez nous un quelque chose de plus, nous ne serions pas arrivés à la position que nous occupons. Et c'est peut-être quelqu'un d'autre qui ferait paraître cette annonce. » Fermez les guillemets. Qu'y a-t-il là d'autre que pure tautologie et que preuve par l'existence ? Partout ainsi, c'est la répétition même qui fait causalité efficace. Comme dans certains laboratoires on opère la synthèse artificielle de molécules, ainsi ici s'opère la synthèse artificielle du vrai à partir de la parole efficiente. Persil lave plus blanc. Ce n'est pas une phrase, c'est le discours Persil. Celui-ci et les autres stigmates publicitaires n'expliquent pas, ne proposent pas de sens. Ils ne sont donc ni vrais ni faux, mais ils éliminent précisément le sens et la preuve. Ils y substituent un indicatif sans phrase, qui est un impératif répétitif. Et cette tautologie du discours, comme dans la parole magique, cherche à induire la répétition tautologique par l'événement. Le consommateur par son achat ne fera que consacrer l'événement du mythe. On pourrait pousser plus loin l'analyse du discours publicitaire dans ce sens, mais aussi élargir cette analyse aux différents médias modernes, pour voir que partout, selon une inversion radicale de la logique traditionnelle de la signification et de l'interprétation, fondée sur le vrai et le faux, c'est ici le mythe ou le modèle qui trouve son événement, selon une production de la parole désormais industrialisée au même titre que la production des biens matériels.